Merci à vous de me donner l'occasion effectivement de présenter cet ouvrage sur l'économie des émotions. Alors, c'est un ouvrage qui porte sur la façon dont les économistes tentent d'intégrer aujourd'hui les émotions, les processus affectifs, les humeurs. Et puis c'est très nouveau pour l'économiste parce que autant la théorie des émotions a été investie dans d'autres sciences sociales, que ce soit la psychologie, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, même les neurosciences, autant pour les économistes, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau. Et pourtant, dans l'ouvrage, on voit apparaître des questions qui sont tout à fait fondamentales pour l'économiste. Par exemple, la question de savoir comment l'introduction des émotions va remettre en cause, entre guillemets, une discipline qui est fondée vraiment sur une très grosse forme de rationalité. Une autre question, c'est par exemple de savoir comment l'introduction des émotions peut modifier la façon dont on conçoit le comportement humain. Ou éventuellement la question de savoir comment l'introduction des émotions en tant qu'outil de politique économique va modifier les comportements et les diriger éventuellement vers des comportements qui seront plus bénéfiques pour la collectivité. Et puis au-delà de ça, il y a la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Est-ce que des émotions peuvent être rationnelles? Est-ce que des émotions peuvent être morales? Est-ce qu'il est possible de manipuler les émotions d'autrui pour éventuellement atteindre des objectifs de politique économique? Alors, je ne vais pas retranscrire les différents chapitres de l'ouvrage, mais plutôt illustrer quelques-unes des questions qui me paraissent un peu centrales, en commençant notamment par essayer de comprendre qu'est-ce que l'émotion. Ce qui n'est pas très simple, hein, parce qu'il y a une sorte de paradoxe qui s'impose déjà quand on regarde cette question, parce que l'émotion, tout le monde connaît. Tout le monde sait très bien ce que c'est que ressentir une émotion. On a une perception très fine finalement de ce que l'on ressent, de notre ressenti émotionnel. On est capable d'identifier des choses très clairement pour soi-même et pour autrui. Et en même temps, quand on essaie de définir ce qu'est l'émotion, on tombe sur une littérature très très abondante. Chacun a un peu sa définition, le philosophe, le sociologue, et puis à l'intérieur des champs sociaux, des disciplines, on a vraiment des définitions qui sont très 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 différentes. Alors pour l'économiste, le mieux, c'est effectivement d'essayer de définir l'émotion à partir de ce qu'on appelle les composantes centrales de l'émotion, qui les relie aux éléments principaux de l'analyse économique. Alors, une première dimension, c'est le fait que l'émotion est un processus physiologique qui s'incarne dans le corps. Et en particulier pour l'économiste, c'est intéressant parce que l'émotion est associée à une forme d'expression, et notamment à l'expression du visage. Et on voit l'utilisation que l'on peut en faire au travers notamment d'un mouvement de négociation ou d'un cadre de négociation dans lequel éventuellement un acteur va utiliser la colère ou éventuellement la tristesse pour obtenir des gains dans la négociation. La deuxième composante qui est importante pour l'économiste, c'est la croyance, c'est-à-dire que l'émotion, c'est forcément quelque chose qui est associé à une dimension qu'on va dire cognitive, qui vient de cognitio, qui veut dire connaissance. Ça veut dire tout simplement que ça ne veut rien dire que l'on a peur. On a forcément peur de quelque chose. Et donc, ce qui motive l'émotion, c'est bien quelque chose qui est associé à la croyance. On va regretter, par exemple, d'avoir fait un investissement financier pas fructueux. On va envier le niveau de revenu de son collègue ou éventuellement de son voisin. Donc, il y a une dimension aussi cognitive qui fait que, pour les économistes, c'est aussi important. Une troisième dimension qui est importante pour l'économiste, c'est le fait que l'émotion est associée à un ressenti positif ou négatif, c'est-à-dire ce qu'on appelle la valence. Une émotion positive, c'est la joie. Une émotion négative, c'est la colère ou éventuellement la honte. Et pour l'économiste, c'est très important parce que tous les modèles économiques sont basés sur la notion d'utilité, ce qui nous fait plaisir ou ce qui ne nous fait pas plaisir. Et grosso modo, on considère que les individus ne recherchent qu'une seule chose, c'est de maximiser le plaisir qu'ils ont dans les activités économiques, notamment au travers de la consommation. Donc le marqueur de la valence est vraiment quelque chose de très important pour l'économiste, et ça met en lien cette composante de l'émotion, particulièrement avec la manière dont l'économiste conçoit la maximisation des plaisirs, et en citant les peines et les plaisirs de Jérémy Bentham. Quatrième dimension qui est importante pour l'économiste, et peut-être la plus centrale, c'est que les économistes s'intéressent au comportement des individus. Hein. Ils s'intéressent pas trop à ce qu'ils ont dans la tête, un petit peu, mais pas trop. Ils s'intéressent beaucoup à comment on va observer les comportements et quelles sont la nature de ces comportements. Eh bien, de la même manière, les émotions en termes de composantes est associée à ce qu'on appelle une tendance à l'action. C'est-à-dire, voilà, la tendance à l'action de la peur, c'est la fuite ou l'agression. La tendance à la peur au dégoût, c'est le rejet. La tendance à l'action de la honte, la dissimulation. Et puis la tendance à l'action du regret, c'est effectivement la correction de l'erreur. Vous voyez ici apparaître Jérôme Kerviel, qui effectivement est un trader hein, qui a causé des pertes très importantes en faisant des investissements qui n'ont pas conduit à des bons choix. Et puis effectivement qui a exprimé une certaine forme de regret lié à cette prise de décision. Donc ici, on a une façon effectivement pour l'économiste d'intégrer les émotions au travers notamment de la valence, hein, l'utilité et notamment des émotions qui vont motiver un comportement, hein, une prise de décision sur un marché financier en particulier, mais c'est le cas aussi notamment dans des actions de coopération ou de négociation. Alors maintenant, j'en viens à l'idée de savoir quel est l'intérêt pour les économistes d'introduire l'émotion. Et pour ça, il faut reprendre le contexte historique du développement de la science économique. On avait initialement une théorie standard qui repose sur des hypothèses assez fortes, notamment une hypothèse de rationalité de l'individu. L'individu est proprement rationnel. Et puis une autre hypothèse qui est celle de l'égoïsme de l'individu. C'est-à-dire qu'on se considère que l'individu, en tant que les économistes considèrent que l'individu est toujours à la recherche, et principalement à la recherche de son intérêt personnel. Et puis, dans les années 50, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel en économie. On pensait que ça ne serait pas possible. Il a été possible de mettre en place des expérimentations en laboratoire. En utilisant notamment des étudiants, mais parfois d'autres types de participants, pour essayer de regarder si ces hypothèses étaient cohérentes et si elles correspondaient effectivement, lorsqu'on soumet des tâches à des étudiants ou à des participants, voir si quand on leur soumet ces tâches, eh bien, les comportements qui sont observés correspondent à ces comportements théoriques qui sont postulés par les économistes. Alors les économistes s'attendaient peut-être effectivement que la rationalité soit présente, que l'égoïsme soit toujours présent, et visiblement ça n'a pas été le cas. Hein. C'est-à-dire qu'à partir des années 50, on a un certain nombre de tests en laboratoire qui montrent que les individus ne sont pas toujours rationnels, et également qu'ils ne sont pas toujours égoïstes, hein, et qu'ils peuvent montrer des comportements de coopération, des comportements altruistes, ils peuvent faire aussi confiance. Ils peuvent avoir le sens de l'équité. Et à partir de là, effectivement, l'existence de ces tests d'expérimentation, hein, comme le font les psychologues, hein, finalement, ont conduit à reconsidérer la théorie standard au travers de ce qu'on appelle l'économie comportementale. Et les émotions ont été mobilisées notamment parce que parfois, ou très souvent, elles expliquaient assez bien les différents comportements qui avaient été observés en laboratoire, et c'est un tout petit peu ce que je vais essayer de montrer en illustrant quelques questions au travers de cette théorie des émotions ou de cette économie des émotions. Alors, la première question que je vais aborder, c'est la question de la rationalité. Parce que si on prend les choses de façon un peu historique, hein, depuis Descartes, on considère que les émotions sont un perturbateur de la raison. Hein, et c'est-à-dire que forcément, les émotions nous conduisent à prendre de mauvaises décisions. Hein. Autrement dit, depuis Descartes, les émotions ont mauvaise presse. Elles ne sont pas considérées comme permettant une prise de décision très, très, très intéressante. Et c'est intéressant parce que pour l'économiste, grosso modo, on a cette idée qui est très très présente. C'est-à-dire qu'une bonne décision, c'est une décision qui est rationnelle. On va maximiser son intérêt sous la contrainte. Et en général, si on est sous le coup de l'affection, sous le coup de sentiments, eh bien, on va prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Et on peut retracer ceci au travers d'une analogie hein, qui est associée à une série, peut-être que vous connaissez une série de science-fiction qui est la série Star Trek. Et dans cette série, le vaisseau spatial part à l'aventure dans l'espace. Et c'est un vaisseau qui s'appelle l'Enterprise. Hein. C'est intéressant de ce point de vue-là, du point de vue de l'économiste. Et à l'intérieur du vaisseau, il y a deux personnes qui sont très importantes pour la conduite du vaisseau. Il y a le capitaine Kirk, qui est un humain, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est très, très vif, qui est très, très rapide, très intuitif hein, dans sa prise de décision. Et puis, il y a le vulcanien, qui n'est pas un humain, qui s'appelle Mr. Spock, et qui a des vraies qualités, parce que alors, lui, il est carrément très intelligent, il est calculateur, il est sans émotion, hein, c'est quelqu'un qui est très froid et qui prend des décisions. Et en fin de compte, bon, c'est un peu une figure un peu ironique, mais c'est quand même vrai parce que c'est la littérature en psychologie en parle. L'homo economicus, c'est-à-dire la façon dont l'individu, dont les économistes représentent l'homme économique, qui est donc calculateur, très intelligent et sans émotion, ben, dans la série, ça n'est pas du tout le capitaine Kirk, hein, c'est bien le vulcanien Mr. Spock. Et donc on a une figure de l'agent économique qui est extrêmement un peu caricaturale, hein, parce que effectivement, bon, voilà, vous êtes censé en tant qu'agent économique détenir une connaissance très très forte de la manière dont la politique économique est menée. Vous êtes capable de faire des calculs en termes de probabilité que des étudiants parfois en quatrième année ou cinquième année ne réalisent pas. Etc., etc. Et donc, ce qui est intéressant au travers de cette analogie-là, c'est ce qu'a montré un neurologue, Antonio Damasio, c'est que, en fin de compte, une bonne décision, ce n'est pas une décision qui fait appel à la raison, ce n'est pas une décision qui fait appel à l'émotion. Une bonne décision, c'est quelque chose qui va dépendre d'abord du contexte et qui va associer en général des mécanismes qui sont à la fois d'ordre émotionnel et d'ordre raisonnable. C'est-à-dire que toute la littérature en philosophie, une certaine littérature, mais aussi en neurosciences et même en histoire, on y revient aujourd'hui, montre que finalement les émotions sont parfois aussi rationnelles. C'est-à-dire que les émotions peuvent nous conduire à prendre des décisions qui sont raisonnables, qui sont du bon sens, alors que parfois, effectivement, la raison ne suffit pas. Hein. Par exemple, si derrière moi, vous entendez crier au feu, eh bien, si vous êtes rationnel, hein, vous allez examiner toutes les possibilités que vous aurez de sortir de cet espace, hein, comment va se comporter celui qui est à côté de moi, est-ce qu'il y a des ouvertures, etc. Et vous allez perdre énormément de temps. Alors que si vous êtes effectivement quelqu'un ben, comme vous et moi, c'est-à-dire instinctif, vous allez vous lever et partir et vous sauverez votre vie. Et donc, la question de la rationalité, c'est vraiment important. Et l'émotion vient un peu pousser cette idée chez l'économiste. Alors, puisque j'ai cité Damasio, je peux reprendre une des expériences qu'il a menées, que je représente ici de façon très très simplifiée, où effectivement des participants en laboratoire vont avoir le choix entre deux types de loteries. Une loterie dans laquelle, effectivement, on peut gagner des gains qui seraient ici relativement élevés, comme ça pourrait être là, une loterie B, où on a des gains qui sont relativement élevés, mais avec une probabilité d'obtenir ces gains qui sont relativement faibles. Et puis, comparé à ça, une autre loterie qui donne des gains plus faibles, et puis des risques de perdre aussi plus faibles, mais des gains qui apparaissent quand même beaucoup moins, qui apparaissent plus fréquemment. Alors, Damasio a la bonne idée ou a l'idée de confronter deux types de patients, deux types d'individus, pardon, des individus qui sont comme vous et moi, qui vont tester ces différentes loteries et faire un certain nombre de choix. Et puis, à côté de ça, d'autres types de participants qui sont ce qu'on appelle des personnalités frontales, dont la caractéristique est d'être dépourvue du centre des émotions. Que ce sont des gens qui peuvent calculer comme vous et moi, mais qui sont dépourvus du centre des émotions. Et ce que le travail expérimental a montré, c'est que, en fin de compte, si on regarde la cohérence des choix entre la loterie A et la loterie B, Statistiquement, en termes d'espérance de gain, vous avez toujours intérêt à jouer la loterie A. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte, quelqu'un qui joue normalement va se rendre compte qu'effectivement, il a intérêt à jouer à la loterie A, celle qui donne des gains faibles mais qui viennent plus souvent. Et c'est ce que font la majorité des patients, des participants. Mais ce n'est pas ce que font les personnalités frontales. Alors, non pas parce qu'ils sont capables de calculer, ils comprennent très bien effectivement à un moment donné qu'ils n'ont pas, c'est pas forcément la loterie qui est la plus avantageuse, mais par contre ils sont incapables d'exprimer le regret. Ce qui fait qu'ils ne regrettent jamais leurs décisions précédentes. Et donc, ça n'est pas la capacité de calcul qui explique leur comportement, c'est l'absence de regret, c'est-à-dire l'absence d'émotion. Et au travers de ce travail-là, Antonio Damasio a propulsé un certain nombre d'études qui ont justement eu vocation à montrer que l'émotion a un rôle important dans la prise de décision risquée et que finalement l'hypothèse des économistes qui voudraient que forcément on soit des êtres purement calculateurs n'est pas tout à fait justifiée, y compris lorsqu'on fait des tâches expérimentales de ce type. Hein. Et puis évidemment d'autres séries d'études ont montré que l'émotion et ici le regret pouvaient être mobilisés. Alors c'est intéressant parce que le regret a donné lieu aussi à une forme de modélisation pour l'économiste qui est intéressante parce qu'on voit qu'on va pouvoir avoir des modèles dans lesquels on essaie de minimiser l'occurrence du regret parce que c'est une émotion qui est négative et qu'on n'a pas du tout envie de ressentir. Alors, la deuxième question, donc la première question, c'est est-ce que les émotions sont rationnelles hein, puis donc avec cette figure du vulcanien Spock, qui est un peu l'archétype de la façon dont les économistes représentent l'individu. Hein. C'est la conception humaine de l'individu chez les économistes qui n'est pas tout à fait fondée. Et donc toute une littérature qui a montré au travers de l'expérimentation que ça, ce n'était pas tout à fait vrai. Alors ça ne veut pas dire que les gens ne calculent pas, bien sûr, mais ça veut dire qu'ils calculent, mais ils sont aussi sujets à des émotions. Et ils peuvent aussi avoir une prise de décision qui soit intuitive. Hein. En psychologie, on représente ça sous une forme très marquée où on aurait, hein, c'est un psychologue qui s'appelle Daniel Kahneman qui a cette représentation qui a été reprise par pas mal d'auteurs où il y aurait effectivement deux canaux de prise par rapport à la prise de décision, un système 1 et un système 2, le système 1 représentant la partie très rationnelle, cognitive, et puis le système 2 représentant les parties un peu plus inconscientes, un peu plus intuitives de la prise de décision. Et en fin de compte, hein, en fonction des circonstances, on utilise l'un ou l'autre, et souvent de façon relativement efficace. L'autre question que j'aimerais pouvoir évoquer, c'est la question du rôle des émotions morales. Est-ce que les émotions morales, qui sont en lien avec l'interaction sociale, hein, des émotions morales, c'est par exemple la culpabilité, la honte, mais ça peut être aussi la colère. Est-ce que les émotions morales peuvent avoir une incidence sur les comportements prosociaux, sur les comportements que l'on a en économie, dans la vie quotidienne? Et là, on peut faire appel aussi à des travaux en philosophie morale qui aussi ont été basés sur une expérimentation. Donc, c'est ce qu'on appelle de la philosophie expérimentale. C'est aussi un domaine qui est très nouveau. Hein. Ça a commencé principalement dans les années 90. Et aujourd'hui, hein, c'est très, très, très porté par des philosophes, hein, notamment, par exemple, comme un philosophe américain, Michael Sandel, hein, qui parle de ces choses-là. Ici, on peut présenter une expérience de pensée qui fait appel effectivement aux choix que des participants vont faire en les mettant en situation. Et la situation en question, c'est d'imaginer que vous êtes à la place d'un aiguilleur et que l'aiguilleur voit arriver un tramway qui va à toute allure, et qui va débouler, et qui va culbuter, écraser cinq personnes qui sont ligotées sur une voie. Et l'aiguilleur a heureusement la possibilité justement de faire son travail d'aiguilleur et de détourner la voie vers une autre voie, mais sur laquelle il y a non pas une personne ligotée, cinq personnes ligotées, mais une seule. Et donc la question que l'on vous pose, hein, et auquel vous pouvez vous-même répondre, hein, c'est de savoir si vous avez moralement le droit de détourner le tramway. Et comment répondre à cette question? Alors c'est une question compliquée, parce que vous voyez bien que c'est une expérience de pensée, c'est une expérience liée à la philosophie morale. Mais vous pouvez quand même vous mettre dans cette situation et essayer de répondre. Alors quelle serait, à ce sujet-là, la réponse de l'économiste, hein? C'est intéressant de voir, hein, qu'est-ce que dirait l'économiste. Alors l'économiste, lui, ne se poserait pas trop de problèmes, en fin de compte. Lui, il a une réponse qui est très très claire, parce qu'un économiste, c'est quelqu'un qui cherche à maximiser l'utilité, la satisfaction, et qui se définit comme un utilitariste. Et ici, la réponse utilitariste est simple. Il est bien préférable de sacrifier une personne pour en sauver cinq. Hein, parce que si effectivement toutes les utilités sont comparables, hein, si je fais la somme des utilités des cinq personnes qui sont là, eh bien, il est bien préférable de sacrifier une personne pour en sauver cinq. Et donc il faut actionner, il faut détourner le tramway et c'est moralement juste. Et ce que l'on voit, c'est que effectivement, expérimentalement, 85% des répondants, des participants sont d'accord avec cela dans cette situation-là. Donc ça pourrait vouloir dire que l'économiste a plutôt raison dans ce cas de figure. Mais on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là parce qu'on va vous mettre dans une situation qui est un peu différente, mais qui est un peu aussi très similaire, avec ce qu'on appelle le scénario du pont. Cette fois-ci, effectivement, vous allez pouvoir sauver cinq personnes en sacrifiant une autre, mais dans une situation dans laquelle vous êtes sur un pont et vous avez devant vous une personne énorme, très imposante, et vous voyez effectivement arriver le tramway, et vous avez la possibilité d'arrêter le tramway en poussant l'individu par-dessus le pont. Hein, il faut le pousser, il va tomber en dessous du pont, le tramway va s'arrêter, et vous allez pouvoir sauver les cinq personnes. La réponse de l'économiste ici serait toujours la même, c'est-à-dire effectivement, oui, il est préférable de sacrifier une personne pour en sauver cinq, c'est un calcul utilitariste. Mais paradoxalement, ce n'est pas du tout ce que disent les gens dans ce cas de figure. On voit que le comparatif est à peu près le même, mais la réaction des individus, c'était peut-être aussi la vôtre, c'est de dire qu'il y a une grande majorité de gens qui disent non, ici, il n'est pas moral de pousser l'homme énorme sur le pont. Alors la question, c'est de savoir pourquoi. Quels sont les mécanismes ici qui expliquent cette réaction-là? Eh bien, des études en philosophie expérimentale, mais aussi en neurosciences, ont été chercher un petit peu ce qui se passait dans le cerveau, dans la tête des individus, lorsqu'on était en mesure de prendre ce type de décision. Et ce que ces études montrent, assez simplement, c'est que les zones du cerveau qui sont liées au centre des émotions s'activent dans cette situation qui est celle du pont, alors qu'elles s'activent peu ou moins dans le scénario de l'aiguilleur. Ce qui sous-tendrait l'idée, tout simplement, c'est que les émotions, ici, le ressenti émotionnel, a un impact fort dans une prise de décision qui est en lien avec la morale. Et donc, c'est effectivement ce que ces travaux ont mobilisé, c'est ce que les économistes reprennent aussi, en tout cas ceux qui s'intéressent aux émotions, pour essayer de comprendre effectivement le rôle des émotions dans la morale. Hein, ce sont vraiment des travaux en philosophie expérimentale, hein, qui un petit peu secouent un peu les interprétations un peu classiques, un peu qu'anciennes, hein, associées à la raison. Hein, qu'est-ce que c'est que la morale? Effectivement, une injonction, par exemple, qui serait liée à un calcul, à une forme de raison qui serait très forte. Ben, il s'avère que quand on prend des décisions sur le plan moral, notamment penser à des formes d'indignation, la raison peut être présente, mais elle n'est pas forcément majeure. Hein, on a des émotions qui vont conduire à des prises de décision et qui ne sont pas toujours, en tout cas, liées à la raison. Alors, quel est l'intérêt pour l'économiste de ce type de choses? Eh bien, ça va être de comprendre le rôle d'un certain nombre d'émotions, et d'émotions morales en particulier, sur un certain nombre de comportements prosociaux, qu'on appelle des comportements prosociaux. C'est-à-dire qu'on va revisiter cette question, est-ce que l'individu est forcément à la recherche de son intérêt personnel, en se demandant si les individus ne sont pas capables d'exprimer d'autres types de comportements, comme la coopération, est-ce qu'ils ne sont pas sensibles à l'équité, à la répartition, à la redistribution? Est-ce qu'ils ne sont pas sensibles à la confiance, à la réciprocité? Toutes choses que finalement, quand on est dans une entreprise, on connaît. C'est-à-dire que quand on travaille dans une entreprise, on sait très bien que, y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas forcément des comportements de recherche d'intérêt personnel. Il y a aussi la nécessité de lier des relations de confiance. Et ceci peut être envisagé par les économistes dans le domaine de l'expérimentation. Un certain nombre de travaux ont essayé de regarder expérimentalement quelles étaient les réactions, quels étaient les comportements d'un certain nombre de participants lorsqu'on leur proposait des jeux économiques qui sont associés à la théorie des jeux et qui sont des jeux relativement simples. Alors, par exemple, une illustration de ça, c'est ce qu'on appelle le jeu de l'ultimatum. Dans le jeu de l'ultimatum, on a deux joueurs. C'est un jeu qui est séquentiel, qui va se faire en deux étapes. Il y a un des premiers joueurs qui dispose d'une somme qu'on lui a donnée. Et en économie expérimentale, on joue vraiment ces sommes-là. On lui donne vraiment l'argent aux participants. Et ce participant a la possibilité de faire une offre à l'autre participant. Alors, en général, ils ne se verront pas, ils sont anonymes, ils ne se connaissent pas non plus. Il a la possibilité de lui proposer une répartition de la somme en lui donnant, par exemple, si c'est une somme de 100 euros, ce qu'il veut, il peut lui donner ce qu'il veut. C'est lui qui décide. Il va lui donner une partie et puis évidemment, il est censé garder le reste pour lui. La première question que vous pouvez vous demander, c'est qu'est-ce que vous feriez dans ce cas de figure? Quelle est la somme que vous donneriez à l'autre, sachant que vous ne le connaissez pas, vous ne le reverrez jamais. Éventuellement, l'expérimentateur ne sera même pas au courant de ce que vous avez fait. Possibilité de pas forcément connaître ça. Quelle est la somme que vous pourriez donner? Sachant que la deuxième séquence pour le joueur qu'on peut appeler le joueur B, le joueur A étant celui qui a fait l'offre, le joueur B, lui, il a la possibilité soit d'accepter l'offre, auquel cas la répartition se fait conformément à ce que l'autre joueur, l'offreur a proposé. Hein, par exemple, je vais vous donner quand même un exemple, l'offreur a proposé 40, le joueur B obtient 40 et lui, il conserve 60. Donc, éventuellement, le joueur B, dans ce cas de figure, peut être accepté, peut être refusé, on ne sait pas. Donc, il a une possibilité d'accepter. Et puis, il a une autre possibilité, c'est son autre choix, c'est de refuser l'offre. Et dans ce cas de figure, s'il refuse l'offre, tous les gains s'évaporent. C'est grosso modo, puisqu'on appelle ça le jeu de l'ultimatum et que c'est un jeu de négociation, c'est l'échec de la négociation. Vous pouvez imaginer, par exemple, dans des transactions entre le gouvernement et des syndicats, des moments de friction, où l'un des joueurs fait une offre qui est à prendre ou à laisser. Voilà. Je vous propose ça, vous l'acceptez ou l'acceptez pas. Soit la transaction se fait et puis l'accord est passé, soit éventuellement la transaction ne se fait pas. Et dans ce cas-là, c'est la grève, grosso modo, et tout le monde y perd, les syndicats, les salariés, mais aussi le gouvernement. Vous pouvez imaginer ça dans n'importe quel type de situation, aussi une situation commerciale. Et donc la question ici est de savoir quelle est la prédiction de l'économiste dans ce type de jeu. Comment raisonnerait un économiste? Alors, l'économiste raisonnerait de façon simple et de façon très rationnelle. La première idée, ça serait de dire que les individus préfèrent toujours avoir un peu plus d'argent que rien du tout. C'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir quelque chose, une somme à dépenser, plutôt que rien du tout. Et donc, si on se met à la place du joueur A, l'offreur va anticiper que le joueur B préfère toujours avoir une petite somme, même minimale, plutôt que rien du tout. D'accord ? Et donc, pourquoi ne pas lui proposer cette somme minimale ? Et donc, si la somme à partager est de 100 euros, la prédiction de l'économiste, c'est de dire que l'offreur va proposer 1 euro au joueur B et que le joueur B va l'accepter. Ça, c'est la prédiction de la théorie des jeux. C'est la prédiction sur la base d'une forte rationalité. Je suis rationnel, je pense que l'autre l'est également. Et puis, je ne cherche dans ce jeu, dans cette tâche, qu'à maximiser mon intérêt personnel. D'accord ? La question que je pourrais vous poser, c'est de savoir si vous, là, si je vous faisais cette offre et que j'étais l'offreur, que éventuellement vous jouiez avec quelqu'un d'autre, mais si j'étais cet offreur qui vous a proposé 1 euro et qui s'apprête à conserver les 99 euros, est-ce que vous accepteriez cette offre? Alors vous pouvez vous questionner, mais a priori, très peu le font. Expérimentalement, ça ne fonctionne pas du tout. On s'aperçoit qu'en dessous de 20% de partage ou de division de la somme, la plupart des joueurs refusent l'offre, c'est-à-dire qu'ils la rejettent. C'est-à-dire en dessous de 20 euros dans l'exemple que je donne. Et puis, en plus, tout cela n'est pas très juste parce que les offreurs, ils ont bien conscience de ça. C'est-à-dire qu'en général, ils n'offrent jamais 1 euro ou 5 euros. Ils vont offrir au contraire une offre qui est aux alentours de 40% de la somme, c'est-à-dire 40 euros. Et ceci pour deux raisons. La première, celle que je viens d'évoquer, à savoir ils ont bien conscience que l'autre va rejeter l'offre. Et la deuxième raison, c'est qu'en général, les individus sont altruistes. C'est-à-dire qu'ils ont aussi le souci d'autrui. Ah, il y a une offre. Bon, je vais m'en garder un petit peu plus pour moi, éventuellement. Mais beaucoup d'offres sont à 50-50. C'est-à-dire qu'ils considèrent effectivement que, bon, bah, finalement, ils auraient pu être à la place de l'autre, etc. Et encore une fois, il faut bien prendre en compte que dans ce type de travail expérimental, les sujets sont rémunérés. C'est-à-dire que les sommes, ils les perçoivent véritablement. Hein. Et en général, alors 100 euros, c'est peut-être un peu beaucoup hein, pour une tâche de ce type-là, mais aujourd'hui, expérimentalement, un participant qui a travaillé une heure, hein, il part avec 20, 25 euros, parfois un petit peu moins, mais une somme qui n'est pas négligeable. Et pour un participant, si c'est un étudiant, c'est des choses qui sont importantes. Donc, c'est un jeu qui montre effectivement que les individus ont un sens de l'équité, et qui montre aussi le rôle des émotions, parce que la deuxième question qu'on peut se poser ici, c'est de savoir pourquoi les individus rejettent l'offre. Qu'est-ce qu'on peut expliquer? On est bien d'accord qu'on ne peut pas expliquer ça rationnellement. Hein, j'avais intérêt à le faire. Pourquoi j'ai refusé, par exemple, 10 euros, 15 euros ici? J'aurais pu faire un petit cadeau à mon ami, j'aurais pu éventuellement investir la somme ou m'acheter quelque chose. Il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison de rejeter. Et la seule façon d'expliquer ça rationnellement, c'est d'utiliser la théorie des émotions, d'utiliser les émotions. Parce qu'en général, et expérimentalement, on arrive à le montrer, ceux qui rejettent l'offre expriment de la colère, de l'irritation, du dépit, du mépris, de l'indignation, parce qu'effectivement, ils ne sont pas satisfaits et ils considèrent effectivement que l'offre est inéquitable. Et l'iniquité, effectivement, c'est typiquement, c'est ce que nous disait Aristote déjà il y a très fort longtemps, c'est effectivement ce qui est sous-jacent dans la colère et quelque chose qui se déclenche lorsqu'il y a une forme d'iniquité qui est très forte. Donc on voit effectivement qu'on peut mobiliser les émotions, et puis on peut même aller plus loin, parce qu'il y a une expérience qui est intéressante, qui a permis de comprendre que si vous faites jouer à ce jeu avec un joueur A et un joueur B, un joueur A qui propose une offre très inéquitable, un joueur B qui en ressent une forme d'inéquité, si vous mettez ce joueur B dans une nouvelle situation où il va être l'offreur et non plus celui qui reçoit l'offre, eh bien en général, ceux qui ont compris l'expérience de l'inéquité vont se conduire de façon plus équitable que d'autres joueurs qui seraient dans la même situation. Ça veut dire que non seulement il y a des émotions, mais il y a aussi une capacité d'apprentissage par l'émotion. Effectivement, des gens qui ont été dans une situation qu'ils ont perçue comme inéquitable comprennent ce que c'est que l'inéquité. Et lorsqu'ils vont être placés eux-mêmes dans une situation où ils doivent arbitrer une offre ou une négociation, ils vont avoir tendance à pas forcément reproduire cette situation-là, mais ils vont être capables effectivement de comprendre qu'une bonne négociation doit passer par un arbitrage relativement équitable. Et puis, vous voyez, par rapport à ce que je disais de la rationalité des émotions, un joueur A qui serait parfaitement rationnel, qui proposerait 1 euro et qui garderait 99 euros, d'abord il est complètement stupide parce que grosso modo il va à l'échec de la négociation, hein. Alors qu'un joueur qui effectivement refuse une offre, qui montre son indignation, eh bien, il ne fait que muscler son pouvoir de négociation. Parce que dans la vie économique, lorsque vous acceptez tout, parce qu'effectivement, même si c'est votre intérêt de le faire, si vous inscrivez dans une perspective de plus long terme, vous avez toujours intérêt à montrer effectivement que vous n'allez pas céder. Et donc, vous avez parfois tendance à exprimer des émotions et mettre même éventuellement à exprimer votre collègue, votre colère. A priori, dans les discours, dans la façon dont il parlait, Winston Churchill est quelqu'un qui est réputé pour ses colères, hein, et parfois un certain nombre de d'auteurs, notamment général de Gaulle, hein, a pu imaginer que tout cela était un peu fin. Ce qui veut dire effectivement qu'on a une capacité d'expression des émotions qui peut être utile aussi dans la négociation. Donc ici, pour résumer ce point-là, ce que cela traduit, c'est que cette littérature traduit, c'est à la fois que les émotions sont en lien avec la morale, mais aussi que ces émotions morales, hein, parce qu'il y a ici, j'ai traité de la colère, mais il y a aussi les effets, par exemple, de la culpabilité ou de la honte sur la coopération, que ces émotions morales peuvent avoir une incidence sur les comportements qui seraient des comportements prosociaux, qui sont des comportements qui ne sont pas en lien direct, hein, qui sont d'autres, qui expriment une autre motivation que l'intérêt personnel, qui est une motivation qui est plus altruiste, qui est une motivation qui serait plus associée aux soucis d'autrui. Et puis, dernière question que j'aimerais poser, c'est le lien qu'on peut faire entre l'émotion et éventuellement la politique économique. Est-ce que tout cela, est-ce que les émotions ont quelque chose à dire à ce sujet-là? Eh bien oui, c'est le cas parce que, à partir du moment où on se rend compte que les individus ne sont pas toujours rationnels et calculateurs et qu'ils peuvent être influencés par leurs émotions, eh bien on va pouvoir mobiliser d'autres types d'arguments hein, que ceux qui sont de l'économiste traditionnel, à savoir la taxation, la subvention, hein, grosso modo la punition ou la récompense. Hein. On est quand même sur beaucoup, beaucoup d'instruments de ce type-là. On va pouvoir utiliser des instruments qui sont un peu différents. Et c'est important parce que pour un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes environnementaux, on s'aperçoit très bien que le calcul ne suffit pas et que les instruments de l'économiste traditionnel ne sont pas efficaces. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui autour du changement climatique montre qu'on a beau raconter ou répéter finalement que le changement climatique, c'est très important, essayer de faire comprendre aux individus qu'ils ont tout intérêt pour préserver éventuellement leur descendance, à préserver la planète. On a beau leur donner l'information, on a beau essayer de mobiliser leur raison, on voit très bien que ça ne suffit pas à les motiver. Et ça ne suffit pas à les motiver parce qu'effectivement, ce qui motive les individus, c'est justement l'émotion. L'émotion, c'est un moteur. Et donc, ça voudrait dire qu'il faut utiliser d'autres outils. Et les outils, effectivement, ça peut être effectivement des appels à soit une forme de gratitude, soit une forme d'économie qui serait un petit peu plus positive et qui utiliserait d'autres types de vecteurs que finalement taxer ou subventionner, ce qui est évidemment indispensable dans un certain nombre de cas de figure, mais qui peut ne pas être suffisant. Et pour illustrer ça, j'aimerais rappeler une expérience très, très concrète hein, qui a été effectuée, non pas en laboratoire, mais aussi du point de vue expérimental, mais ce qu'on appelle dans le field, c'est-à-dire sur le terrain. Sur le terrain, des chercheurs ont cherché à voir s'ils pouvaient modifier la consommation d'énergie journalière de ménages américains, en faisant appel à un panel assez large de 290 ménages californiens. Et la première étape de leur travail, ça a été de mesurer le niveau de consommation d'électricité journalier de ces ménages, et de leur envoyer leur niveau de consommation qu'ils pouvaient comparer avec le niveau de consommation moyen des autres ménages qui étaient à proximité et qui ont évidemment les mêmes caractéristiques. Et ils s'attendaient effectivement à ce qu'on voit apparaître dans l'étude, à savoir que ceux qui ont un niveau de consommation qui est supérieur à la norme ont tendance à rectifier leur niveau de consommation en se disant bah, « effectivement, oula, je consomme trop par rapport aux autres, donc je réduis mon niveau de consommation ». Bon, très bien, c'est un bon aspect. Déjà, ça mobilise autre chose que la rationalité, ça mobilise la norme sociale, le conformisme, et c'est déjà un atout. Mais ils ne s'attendaient pas à quelque chose qui apparaît dans l'étude, c'est que ceux qui ont un niveau de consommation qui est meilleur, qui est inférieur à ceux des ménages moyens et donc qui ont été bons élèves, eh bien, ont un comportement qu'ils n'attendaient pas, c'est-à-dire qu'ils augmentent leur niveau de consommation. Hein, du genre, effectivement, ben, je suis bon élève, bon, oui, ben, finalement, je peux me permettre un peu mieux, je peux me permettre d'avoir une consommation d'énergie qui est plus forte. Et donc, c'est ce qu'on appelle un effet rebond, qui n'est évidemment ici pas du tout efficace. Hein, parce que si l'idée, c'était de diminuer le niveau de consommation, ici, ça ne fonctionne pas. Alors, ils ont eu l'idée, alors c'est à la fois anecdotique et en même temps, ça a bien fonctionné, ils ont eu l'idée d'ajouter à leur travail, et donc de le répéter, en ajoutant sur la lettre accompagnant les niveaux de consommation qui sont à la fois ceux du ménage et ceux de la moyenne des ménages, des émoticônes. Des émoticônes, avec un émoticône souriant lorsque l'individu ou le ménage est bon élève, finalement, hein, c'est-à-dire un message d'approbation. Oui, votre niveau de consommation est inférieur à celui de la moyenne, donc vous êtes finalement assez économe en énergie. Et puis, de l'autre côté, un message d'un émoticône de triste, hein, ou éventuellement en colère, hein, qui est un message de désapprobation en disant, bah, finalement, vous ne comportez pas très très bien. Et les résultats de l'étude montrent que l'émoticône triste ne fait que renforcer effectivement la capacité des individus à réduire leurs économies d'énergie. Et, deuxième élément, il neutralise l'effet rebond qu'on ne voit pas apparaître, hein, ou qui est très très peu, qui n'est pas significatif en fin de compte ici. Hein, c'est-à-dire que les individus qui ont reçu ce message, hein, qui est un peu un message de fierté, d'approbation, hein, n'augmentent plus leur consommation. Non, c'est une façon pour les économistes, hein, d'intervenir. Hein. Les psychologues connaissent un petit peu ça au travers de bon, ce qu'on voit dans les campagnes de publicité sur les heuristiques de la peur. Hein. Par exemple, quand vous voyez la manière dont sont décrites les dangers associés au tramway, hein, des grandes lignes de tram avec du sang plein partout, hein, c'est effectivement là, vous mobilisez la peur des individus pour essayer de les inciter à changer de comportement. Parce que vous savez très bien que si vous leur donnez des informations, hein, sur le taux de mortalité par le tram, etc., si vous donnez que de l'information, si vous faites appel qu'à leur raison, eh bien vous n'obtiendrez rien, hein, ou en tout cas, vous n'aurez pas d'impact significatif. Alors qu'en mobilisant ce type d'affect, vous avez un effet. Alors, c'est à la fois anecdotique, hein, ici, et en même temps, voilà, on s'aperçoit qu'on peut mobiliser des comportements et changer ces comportements de façon durable ou pas, c'est la question, hein, c'est de savoir si effectivement vous pouvez vraiment changer de façon durable à partir de ce type d'instrument. Mais en tout cas, c'est important pour l'économiste parce que ça change vraiment l'idée que les individus sont forcément rationnels et que on va pouvoir les toucher, les changer leur comportement uniquement par effectivement des taxes, des subventions ou éventuellement des règles. Parce que la règle aussi est importante. On a d'autres outils qui peuvent avoir de l'incidence et qui touchent effectivement des questions très sensibles comme l'environnement, mais aussi la santé. Voilà, troisième question qui me paraît très, très importante. Et puis, en conclusion de ce que je voulais aborder, je voulais reprendre un certain nombre au moins quelques questions par rapport à l'introduction de ces émotions et ce que cela peut changer aussi en économie sur la façon dont on conçoit les choses. La première question, c'est effectivement. Est-ce que l'émotion peut-elle conduire les économistes à repenser la conception égoïste et rationnelle de l'individu économique? Alors, d'en avoir répondu un peu, et dans l'ouvrage, je développe d'autres types d'expérimentations et toute une littérature qui parle de ça. Hein. Il y a une grosse littérature qui, effectivement, tendrait à penser que ceci est un peu en marche. Hein. C'est l'apport de l'émotion, hein, de revisiter cette conception humaine qui est née hein, au 18e, 19e et qui s'est renforcée au 20e siècle sous une forme, effectivement, un peu caricaturale hein, qu'on appelle l'homo economicus et que j'ai présenté sous la forme de ce vulcanien Spock, qui associe deux composantes, il est égoïste et il est rationnel. Et on s'aperçoit effectivement que l'émotion oblige un peu les économistes à revisiter ces deux dimensions, et ça ouvre des modèles qui seront effectivement qui peuvent être assez différents. Deuxième question que je viens d'évoquer, c'est la question de ce qu'on a appelé le paternalisme émotionnel. C'est effectivement cette capacité que l'économiste aurait à intervenir un peu plus directement sur les préférences des agents ou sur les comportements des agents en essayant de les modifier. Ça paraît Ça paraît un peu logique, mais en fin de compte, ce n'est pas du tout dans la tradition de l'économiste. L'économiste considère en général qu'il ne doit pas intervenir sur les raisons d'être d'un comportement. Par exemple, voilà, les gens fument, ok, ils fument, c'est leur droit de fumer, et on n'a pas à impulser un mouvement pour faire en sorte qu'ils ne fument pas. L'économiste va, lui, éventuellement introduire des éléments d'incitation classiques qui seront effectivement, ben voilà, on va mettre des taxes, mais on ne va pas s'interroger sur les motivations. Et si on ne s'interroge pas sur les motivations, en fin de compte, on aura du mal, effectivement, à pouvoir intervenir. Donc, le paternalisme émotionnel, c'est effectivement l'utilisation des émotions pour éventuellement modifier les types de comportements. Et c'est quelque chose qui n'est pas lié ou qui n'est pas proche de l'économiste. Parce que l'économiste, oui, il ne s'intéresse pas trop aux motivations, il ne s'intéresse pas trop à ce que les gens ont dans la tête, il ne s'intéresse pas trop aux préférences des agents. Il considère que les préférences sont données et qu'il n'a pas vocation à les modifier. Et ici, on voit qu'il y a un changement d'orientation qui n'est pas du tout anecdotique, et qui est finalement assez fort. C'est quelque chose qui, aux États-Unis, a eu un impact assez important, y compris dans la politique que Obama a pu mener, parce que les économistes comportementaux, notamment quelqu'un comme Richard Thaler, aux États-Unis, ont eu vraiment une incidence sur la conduite d'un certain nombre de politiques de santé, d'environnement, qui sont en lien avec cette idée que, bah oui, on va pouvoir jouer sur les émotions, sur les sentiments des individus, parce que ça a de l'intérêt de le faire, dans le sens, évidemment, de quelque chose qui serait bénéfique pour la collectivité, préserver l'environnement, préserver la santé, etc. Et donc, deuxième question sur le paternalisme émotionnel, est-ce que c'est un outil qui est efficace? Bon, c'est vraiment une question qu'on peut poser. On voit que ça débouche sur des choses, mais ça pose aussi pas mal de questions qui sont intéressantes. Troisième question qui me paraît intéressante et qui sont traitées en conclusion de l'ouvrage, c'est la question de savoir si l'intérêt des économistes pour les émotions est-il durable ou est-ce qu'il illustre une mode? Parce qu'effectivement, je crois que je l'ai souligné, on est vraiment dans une mode où les émotions ont vraiment bonne presse. Là, depuis les années 2000, voilà, vous prenez le dernier numéro de l'Histoire, c'est un numéro qui porte sur les émotions médiévales et qui montre justement qu'il y avait une certaine forme de rationalité des émotions, contrairement à ce qu'on a toujours pu penser. Les émotions étaient perçues, étaient vues comme éventuellement quelque chose qui était très, très, très perturbant, avec une forte violence, une forte turbulence. Et très, très longtemps, on a pensé ça. Et en fin de compte, voilà, les historiens médiévaux reviennent sur cette idée-là et montrent effectivement, ben non, qu'il y avait des codes, et que, effectivement, on pleurait ou on riait de façon différente, mais il y avait des raisons d'être, il y avait des normes qui peuvent expliquer ces choses-là et qui correspondent à une forme de rationalité. Donc, on est vraiment dans une mouvance où les émotions en psychologie, même en psychologie, on a un retour des émotions très très fort. Et donc, les économistes ont pris le train en marche. Ça a conduit à une énorme littérature qui est expérimentale, qui est de modélisation, qui utilise aussi les travaux en neurosciences, c'est-à-dire en neuroéconomie, avec des économistes qui travaillent avec des psychologues, mais aussi des neurologues, qui regardent comment la prise de décision se fait dans le cerveau. Est-ce que tout ceci va retomber comme un soufflé, ou est-ce que ça va conduire à modifier probablement profondément la façon dont les économistes travaillent, éventuellement avec d'autres disciplines. C'est aussi une des caractéristiques de l'émotion, de conduire à... Voilà, on ne peut pas travailler quand on est un économiste sans avoir une lecture de ce qu'est la psychologie des émotions, la sociologie des émotions éventuellement, ou les travaux en neurosciences. Donc ça conduit, vous voyez, à repenser la manière dont l'économiste peut travailler. Mais la question, c'est de savoir effectivement, est-ce que ça va changer profondément le paradigme, c'est-à-dire le socle sur lequel l'économiste se repose, ou est-ce que ça va conduire un petit peu plus loin l'économiste à véritablement renoncer à ce socle dominant qui est celui de la rationalité, éventuellement de la recherche de l'intérêt personnel. Parce que, voilà, je cite beaucoup de travaux qui font appel à ces, qui reviennent sur ces hypothèses-là, mais encore aujourd'hui, on peut considérer que ce socle-là, il existe et qu'il est très dominant. Et donc, la majorité des travaux ne considèrent pas du tout que les individus ne sont pas rationnels ou introduisent très peu des formes de d'irrationalité, entre guillemets, et très peu de travaux introduisent aussi l'idée d'un intérêt pour autrui. Le socle dominant reste quand même très, très, très marqué par ces deux choses-là. Donc, est-ce que l'économie du comportement va aller dans le sens d'un basculement ou va venir véritablement bousculer ce socle dominant, ou est-ce qu'éventuellement il va être intégré à l'intérieur comme étant effectivement un prolongement? C'est vraiment une question qui a le mérite de. Que les émotions, la théorie des émotions, a le mérite de poser et qui est vraiment d'actualité. Hein. Et avec toutes les conséquences que ça peut avoir, hein, parce que voilà, c'est des façons de fonctionner différentes pour les économistes, hein, en lien avec d'autres sciences, et puis revenir sur cette idée, hein, de, voilà, de la norme de l'intérêt personnel, hein, qui est très très présente, hein, pour un économiste, à tel point que quand vous regardez la façon dont les étudiants économistes fonctionnent par rapport au type de jeu que j'ai présenté, le jeu l'ultimatum, on s'aperçoit en général que les étudiants économistes, ils sont beaucoup plus rationnels que les autres. C'est-à-dire qu'ils ont, en général, ils proposent des offres qui sont beaucoup moins altruistes, hein, que les autres étudiants, que ce soit des étudiants en philo, en psychologie, hein. Et donc ça veut dire que ça pourrait vouloir dire que cette norme de l'intérêt personnel, c'est une marque de fabrique de l'économiste, mais c'est aussi une marque de fabrique que l'économiste crée d'une certaine manière. Hein, parce qu'effectivement, il contribue à la formation des étudiants qui sont portés vers l'intérêt personnel, parce qu'effectivement, c'est la manière dont on décrit l'individu. Donc tout ça n'est pas du tout, je dirais, anecdotique. Hein, ça peut amener à des changements très très profonds de l'analyse économique. Et puis, la dernière question qui me paraît véritablement aussi intéressante et à la fois c'est extrêmement difficile d'y répondre. Les économistes ont commencé à s'interroger sur les émotions à partir des années 50, mais de façon très, très préliminaire, à partir d'émotions qui sont des émotions très cognitives, hein, qui étaient faciles d'accès, c'est-à-dire des émotions comme le regret ou comme la déception. Et puis, il s'interroge maintenant sur des émotions plutôt morales, hein, comme effectivement la honte, la culpabilité, éventuellement la colère. Hein. Je les ai évoquées. Mais vous voyez que dans ce que j'ai évoqué relativement peu d'émotions qui sont positives. C'est aussi le cas des psychologues, hein, et puis en général, il y a davantage d'émotions négatives que d'émotions positives. Mais il est très probable, hein, et ça c'est quelque chose que j'évoque aussi, que aujourd'hui il y a un mouvement en économie, mais aussi dans d'autres domaines, des sciences sociales ou même des sciences dures, vers une analyse de l'impact sur les croyances, sur les attitudes, mais aussi sur les comportements d'émotions positives. Par exemple, la joie, par exemple, la gratitude, hein, qui peuvent mobiliser bien autre chose que ces émotions négatives, finalement, qui sont peut-être porteuses de quelque chose de bénéfique sur les comportements, mais qui sont de toute façon pas du tout agréables à ressentir, hein, et qui sont donc pas porteuses de quelque chose qui est proche de ce qu'on appellerait l'économie du bonheur, ou qui seront proches d'une économie qui serait liée à la satisfaction. Donc, la question, c'est vraiment de savoir quelles sont les émotions motrices qui peuvent façonner les sociétés de demain. Voilà. Est-ce que effectivement, on n'a pas une littérature qui se tourne aujourd'hui vers la compréhension de ce que peut donner lieu, ce à quoi peut conduire la gratitude, mais aussi le processus empathique. Il y a beaucoup de travaux, hein, sur l'empathie aujourd'hui, et des travaux récents en économie, hein, mais alors, quand on parle de travaux récents, c'est dans les 3 ou 4 dernières années, qui essaient de regarder le rôle de l'empathie, hein, sur la capacité de l'empathie éventuellement à conduire les individus vers des comportements qui sont des comportements prosociaux, de coopération, la recherche de l'équité également. Donc la question auquel je n'ai pas de réponse, hein, mais je vois quand même se dessiner ce mouvement, y compris dans d'autres domaines des sciences sociales, c'est-à-dire le fait de pas toujours pas se tourner uniquement vers les émotions négatives, hein. Il y a une énorme littérature en psychologie et en philosophie là-dessus, et puis beaucoup moins finalement sur des émotions qui sont pourtant porteuses, hein, d'éléments qui seraient plus positifs finalement sur la construction de la société du futur. Et je vous remercie pour votre attention, ouais. Merci aussi de votre présence.